Mémoire d'été, plongée dans les secrets de la mémoire avec Sébastien Martinez. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Bonjour, bonjour, la rentrée approche de plus en plus. C'est une bonne idée d'écouter ce podcast, surtout si cela t'éclaire sur des questions que tu te poses ou pas. Et si surtout cela te donne des idées. Et pour terminer la troisième saison de ce podcast, j'ai invité Sébastien Martinez, que j'ai rencontré virtuellement lors d'une conférence organisée par l'Appel. Mais trêve de bavardage, c'est parti pour notre conversation. Bonjour Sébastien.
Bonjour François.
Eh bien encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, pourrais-tu nous dire comment on devient Sébastien Martinez ?
Oula. Alors comment on devient ? En tout cas, j'imagine que la question c'est sur l'aspect mémoire. Depuis tout petit, quand on me pose souvent la question, mais comment t'es arrivé à être champion de France, notamment de mémoire, t'as travaillé ta mémoire ? J'ai un enseignant en CM2, je dirais, qui nous a posé cette question à la classe. Il nous dit, mais est-ce que vous savez pourquoi on a des jeunes, des polytechniciens, bac plus 5, ils peuvent faire la passerelle et aller directement en troisième année de médecine sans jamais avoir vu un cours de médecine. Elle nous a posé cette colle, on avait quoi, 10 ans, en CM2, je crois.
C'est ça. Ouais.
Et en fait, la réponse qu'il nous a donnée, c'est qu'il nous a dit, à ces personnes, on leur a appris à apprendre. Et en fait, ça a été une graine vraiment qui a été plantée dès le CM2, qui est restée un peu là. J'y ai pensé. En fait, j'y ai repensé quand je suis arrivé en école d'ingénieur, parce que je me suis dit, tiens, on va m'apprendre à apprendre peut-être. Et en fait, pas vraiment. Surtout quand j'ai dû avoir mon TOEIC, donc l'examen d'anglais, pour pouvoir partir à l'étranger. Première fois que j'ai passé mon TOEIC, j'ai 350 points. Donc ça fait 7 sur 20. C'est très, très mauvais. Et j'ai vu mon responsable d'études qui m'a mis un peu un coup de pression. Il m'a dit, si tu veux partir en Inde, parce que c'était mon choix, il m'a dit, tu as un mois et demi pour avoir 15. Si tu n'as pas 15, tu ne pars pas. Et donc là, j'ai commencé à chercher sur Internet. Je me suis dit, on m'a jamais appris à apprendre. Tu vas essayer d'apprendre, notamment à mémoriser du vocabulaire. Et c'est à ce moment-là, on est en 2008, que j'ai découvert l'existence de championnats du monde de mémorisation. Et donc ça m'a fait un premier déclic parce que j'ai vu qu'il y avait des méthodes, qui partageaient leurs méthodes, et je me suis entraîné. J'ai eu mon TOEIC, ça m'a demandé beaucoup d'entraînement au début en tout cas, et donc je suis parti en Inde, je suis revenu, et en revenant en fait j'ai eu à la fois cette frustration et cette motivation de me dire mais pourquoi j'ai pas appris ces méthodes avant, et c'est comme ça que j'ai commencé à les transmettre.
D'accord.
Ça c'est vraiment le début, et on est en 2012 où je commence à transmettre ça à des jeunes, surtout au lycée. Et pour aller vite, voilà, j'ai fait ma première compétition grâce à ces jeunes, parce que je me suis rendu compte que pour motiver, alors je pense que tous les pédagogues se posent la question, c'est comment motiver ces apprenants. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être l'exemplarité le meilleur levier. Et donc, j'ai essayé d'être exemplaire dans mes stratégies, en tout cas dans mes compétences. Et donc, j'ai fait de la compétition. J'étais pas du tout au niveau, j'ai vu que c'était un sport. et en m'entraînant plus sérieusement, j'ai été champion de France en 2015. Vice-champion en 2017, parce que j'ai un ami qui s'est plus entraîné. Et en 2018, avec l'équipe de France, on a été vice-champion du monde. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va dire Sébastien Martinez, 36 ans. J'aurais peut-être dû commencer par là. J'ai deux enfants, 6 ans et 3 ans. Et j'ai deux casquettes aujourd'hui dans le monde de la mémoire. À la fois, je suis président de l'Association des sports de mémoire, où notre ambition, c'est de faire grandir ce sport. Et je suis entrepreneur, j'aime bien dire, au service de l'éducation. Donc, j'ai développé une méthode pour transmettre ces techniques d'apprentissage à l'école, à des enseignants, après le bac, enfin, voilà. Mais
c'était un peu mon envie de te rencontrer, justement, c'était de voir un petit peu comment on peut faire pour transmettre ça. Alors, beau parcours aussi, et c'est toujours intéressant de voir comment on peut rebondir sur des échecs aussi, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, on va dire. Là, ce qui m'intéresse un peu, c'est justement, il y a des stratégies de mémorisation moi, que j'ai pu découvrir aussi, même si j'en avais plus ou moins entendu parler, mais c'est toujours intéressant de le vivre concrètement. Et en plus, dans cette visio, ça s'est passé j'allais dire, en moins d'une heure, pof, on était
C'est ça.
quasiment tous capables de retenir plein de choses. Et sur ces stratégies utilisées, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus pour que voilà, pour les auditeurs, puis que je remette bien ça dans l'ordre, dans ma tête?
Carrément. En fait, ce qu'il faut voir, enfin, je parlais un peu de moi, mais en fait, je suis parti de mon propre problème, comme je t'ai dit, et parce qu'apprendre par cœur, c'était insupportable pour moi, et j'ai essayé de comprendre comment on pouvait faire. Et la plupart des stratégies, enfin, ça commence il y a 2500 ans, en fait, hein, c'est les stratégies de mémorisation, la Grèce antique, la mnémotechnie était enseignée en même temps que la rhétorique. Et moi, j'aime bien, enfin, je suis pas théoricien, donc c'est vrai qu'on va passer du coup dessus dans les choses assez pratiques. Mais en fait, la clé, enfin la mémoire, enfin les techniques de mémorisation s'intègrent dans ce qu'on peut appeler une méthode d'apprentissage. Enfin, c'est pas comme ça, donc ça met en question un peu ta méthode d'apprentissage de manière globale. Et pour moi, il y a deux axes qu'il faut travailler. Et après, du coup, je vais zoomer un peu sur ta question. Premier axe, c'est apprendre à se connaître. Et de manière générale, apprendre à connaître comment fonctionne le cerveau d'un humain. Donc là, il y a plein de choses. Et deux, il y a des gestes techniques. Et je vais y revenir. D'un point de vue cérébral, un humain, pour mémoriser, il a trois clés. Trois portes à ouvrir. Première porte, il a besoin d'être attentif. Donc, si on travaille sur sa méthode d'apprentissage et sur sa mémoire, forcément, on essaie de comprendre comment fonctionne l'attention, comment on peut l'entraîner, comment on peut la muscler. Alors là, je ne sais pas si tu as déjà invité Jean-Philippe Lachaud, mais voilà, c'est quand même le grand spécialiste français de l'attention. Donc, pour approfondir le sujet. Après, une fois qu'on est attentif, on a besoin d'associer, de créer des liens, des connexions. Et donc là, on rentre, en fait, on encode, en fait, on rentre dans la mémoire à long terme. Et la dernière phase d'une mémorisation, c'est la répétition, donc l'entraînement, pour ne plus oublier, en fait, des informations. Ça, j'ai envie de dire, c'est les points un peu de base, en fait, quand tu veux apprendre n'importe quel type d'information. Si on zoome sur les élèves, un élève, il a besoin de maîtriser des cours. Et donc, pour maîtriser un cours, pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai identifié, peut-être ça va évoluer, mais il y a neuf, enfin, il y a six problèmes dans un cours d'apprentissage. Il y a un problème de vocabulaire. Tu peux avoir besoin de mémoriser du vocabulaire, tu peux avoir besoin de mémoriser des définitions, des schémas, des listes, des informations chiffrées et des formules. Et du coup, on arrive à ta question sur qu'est-ce qu'une méthode de mémorisation? Pour moi, une méthode de mémorisation, du coup, elle est pas, on va dire, sortie d'un chapeau, elle va s'intégrer dans un processus un peu plus global sur j'ai un problème de mémorisation, que ce soit des définitions, des schémas, enfin, ce que je t'ai cité juste avant, et à chaque problème, il peut y avoir plusieurs stratégies de mémorisation pour les retenir.
D'accord, ok. Ok.
Pardon, j'ai toussé. Et en fait, j'ai une question, j'ai une remarque aussi, c'est que souvent, on prend enfin, les techniques de mémorisation, la mnémotechnie a été réintégrée un peu dans le monde moderne grâce aux magiciens, aux mentalistes, au showbiz, on peut dire comme ça. Et du coup, moi, quand j'ai commencé, tous les pédagogues, tous les gens de la pédagogie se disaient, non, mais ça, c'est un truc de magicien, ça sert à rien. Et en fait, oui, ça sert à rien dans les usages qu'ils en ont fait, en fait, ces mentalistes, ces magiciens. Mais si on l'applique à nos problèmes de pédagogue, en tout cas d'apprentissage, il y a des changements à faire, mais ça fonctionne redoutablement bien.
Mais je me surprenais tout à l'heure en lisant ton livre. C'est vrai que ça sert à rien de d'apprendre, je sais pas moi, les départements, mais c'est un côté rigolo aussi. Et ça fait partie des petits concours qu'on peut faire, voilà, qui sont drôles en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de mal à prendre du plaisir à apprendre des choses inutiles aussi, hein.
Alors, je ne sais pas si du coup c'est inutile, mais en tout cas, tu mets en avant deux points. C'est quand tu sais comment t'y prendre avec ces techniques de mémorisation, surtout qu'il y a un côté un peu loufoque qu'on peut faire, on prend du plaisir, on peut s'amuser
Oui, mais
à
c'est ça.
apprendre. Souvent, ce qu'on perd, on va dire, des fois, malheureusement, dans nos classes, certains élèves. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment inutile? Parce qu'en fait, la mémoire est associative. Donc, plus on en sait, plus c'est facile d'apprendre. Donc, rien qu'en raisonnant comme ça, on peut se dire que. En fait, tout type d'information peut m'être utile à court, moyen ou long terme.
Et ça, c'est les élèves ont beaucoup de mal à le comprendre. C'est-à-dire qu'ils apprennent quelque chose, bon, et ils comprennent pas que sur ce qu'ils ont appris, ils vont pouvoir construire autre chose, quoi.
Oui, c'est pas facile à. Je pense que c'est quelque chose qui se comprend pas, mais vraiment qui se vit, quoi.
Oui, c'est
Et
ça.
alors, j'ai pas la solution, évidemment. Mais c'est un vaste, ouais, c'est un grand problème, oui, c'est clair.
Ouais, et puis ça revient quand même souvent, aujourd'hui je trouve, le fait qu'on n'a plus besoin d'apprendre, de toute façon on a notre téléphone portable et il y a tout dedans avec la 4G, etc. Et puis alors en plus avec ChatGPT et compagnie. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi plaisant d'apprendre des choses. Et les mémoriser, quoi. Il n'y a pas que ce côté rébarbatif.
Alors juste pour moi, la réponse, parce qu'on me la pose toujours la question sur quel intérêt d'apprendre aujourd'hui avec toutes les technologies. Moi, il y a trois axes qui me semblent importants à avoir en tête. C'est que notre mémoire, déjà, c'est notre identité. Demain, on t'enlève ta mémoire. En fait, tu n'es plus rien. Tu n'as plus de famille. Tu n'as plus, enfin, tu ne sais plus rien, en fait. Donc, c'est vraiment quitter, en fait, ta mémoire. Donc, pas rencontrer des gens qui ont développé Alzheimer. Et en fait,
Exactement, oui.
ils gardent l'ancien monde, mais pas le nouveau. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et après, les deux autres axes, c'est un, c'est une question de. Enfin, c'est surtout une question de liberté. Un, liberté sur les fake news, de manière générale. Le fait d'avoir un socle de connaissances, ça nous permet d'être moins influençables. Sur des aberrations, hein. La Terre est plate, oui, bon, pas vraiment. Donc, tu vas pas se faire influencer, tu vois, sur ces fake news. Et un autre point, ça te donne aussi un point de liberté d'adaptation. L'humain est un être qui s'adapte, en fait. Et plus tu sais apprendre vite, du coup, mémoriser, et plus mieux tu peux t'adapter et mieux tu peux faire un peu ce qui t'intéresse. Dans un monde qui se change tout le temps, c'est quand même une sacrée compétence à développer.
Oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais des conseils d'animation pour des enseignants, par exemple, pour améliorer, pardon, la mémoire de leurs élèves? Est-ce qu'il y a des activités particulières à faire ou une approche pédagogique particulière?
Oh, c'est
Ah, c'est une
une belle
grosse
question,
question,
ça.
hein, ouais.
Non, on ne me l'a jamais posé comme ça. Parce que surtout des gens que du coup, je fais des formations bah, dans l'enseignement catholique, dans certains formulaires, surtout en Bretagne. J'espère que que bientôt ça sera dans toutes les régions, mais en Bretagne, j'ai une petite centaine d'enseignants que j'ai déjà formés. Et du coup, ils commencent à implémenter ces méthodes, la maternelle jusqu'au lycée. Mais pour des personnes qui n'ont pas forcément suivi de formation, ou en tout cas dans d'autres endroits,
Ouais.
qu'est-ce que je peux leur.
Est-ce que ils font entre guillemets des séances spécifiques on va apprendre à apprendre ou est-ce qu'ils l'intègrent dans leurs leçons d'anglais de maths ou autre?
Oui, alors oui, en fait, je peux faire les deux. Alors, c'est ouais, voilà, c'est bon, j'ai. En fait, il y a des choses qui sont assez facilement implémentables. Tiens, je vais penser, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, qui me donnaient des méthodes qu'ils avaient appliquées, qui ont vraiment changé leur manière d'enseigner. Et pourtant, c'est assez simple à mettre en place. Comme je disais, pour pouvoir mémoriser, du coup, pour soi ou pour ses élèves, il y a ces trois clés que je t'ai données, c'est l'attention, l'association, la répétition. On va du coup essayer de donner une clé pour chaque, enfin, une astuce pour chaque clé. Sur l'attention, un point de vigilance, c'est qu'un humain, enfin dans une salle, on va pas rester concentré des heures. Et en fait, en général, le temps attentionnel, il est entre 8 minutes et alors 50 minutes, c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu aimes bien, donc tu peux durer longtemps. Mais c'est souvent très faible, c'est souvent un quart d'heure, 20 minutes. Donc, dans ces séances de 50 minutes, plutôt ritualiser, et là c'est intéressant, j'ai une enseignante qui m'avait impressionné au collège, enseignante de maths, qui m'avait expliqué qu'elle avait ultra ritualisé, elle avait cinq temps différents, elle avait des trucs de loto, faudrait que je l'interviewe bientôt, mais elle avait mis plein de séquences différentes dans son heure qui étaient ritualisées, et du coup les élèves avec des flashcards, des lotos, des points de cours, des points d'exo, les élèves en fait ils savaient que ça allait s'enchaîner, et comme c'est ultra timé, bah, ils avançaient bien, ils apprenaient bien en fait. Donc, il y a cette notion de timing qui est quand même, et de rituel qui est quand même très connu pour les enseignants en primaire, de manière générale, mais un peu moins au collège, lycée. Après, sur la partie association, ça, je vais revenir après parce que c'est un peu plus, entre guillemets, farfelu, un peu difficile. La dernière étape, la partie répétition, le point, j'ai envie de dire, le plus facile à mettre en place, c'est ce que Antoine de la Garandrie disait déjà donc, il y a quelques années, c'est la minute évocative à la fin. C'est, tu prends les 3 dernières minutes, même les 5 dernières minutes, idéalement, mais ça peut être juste 2 minutes, et tu poses la question à tes élèves, qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble? Ça peut se décomposer dans plusieurs axes. Hein. Un, une question libre, comme ça. ou ça peut être des questions orientées, où tu sous-questionnes en questions un peu plus précises, ou tu peux aller encore plus dans les détails en faisant des quiz. Ça demande, fonction, ça va demander un temps un peu différent. Et les quiz, aujourd'hui, avec certaines technologies, on peut les gamifier. Enfin, il y a des anciens qui connaissent soit des solutions numériques ou pas,
Oui,
quoi.
il y a plein de choses, effectivement.
Donc ça, mettre ça systématiquement en fin de séance, ça change vraiment beaucoup de choses. Et c'est même... c'est une enseignante en Ulysse qui me disait ça. Elle faisait à la fin, mais surtout à la fin de chaque activité, elle faisait donc une feuille blanche, que je l'appelle. Donc, et devant nos élèves, elle, voilà, prenez une feuille, essayez de ressortir ce qui vous vient. Et elle m'a dit, c'est incroyable comme ça a changé leur vie, enfin déjà leur rétention, et du coup la confiance qu'ils avaient en eux, enfin, et plein de choses derrière. Ça, j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. Après, sur la phase d'association, en tout cas, moi, ce que, on va dire, ma singularité, ce que je... sur quoi je parle beaucoup et j'enseigne beaucoup, c'est associer. Il y a deux manières, il y a soit de manière rationnelle, soit de manière loufoque. Le rationnel, en général, les gens sont assez entraînés. Je m'embrèche, enfin, je muscle beaucoup cette partie loufoque, si tu as vu le livre. Donc, faire des associations loufoques, ça marche très bien, par exemple, dans tout ce qui est vocabulaire. Vocabulaire en anglais, en langue étrangère. Ça peut être, qu'est-ce que je dis? Une top en anglais, c'est molle. Je le prononce sûrement pas bien. Mais donc, même une top d'ailleurs, je dis top, j'ai l'accent du sud-est.
J'avais repéré aussi Bulgarie
Oui.
qui boit et
Et Bulgarie, attends, Bulgarie, Sophia, je dis pas de bêtises, c'est Sophia?
Ouais.
C'est bon? Et voilà, donc, ou de la géographie. Mais comment tu fais pour le retenir? Donc, tu es concentré, il faut en avoir un peu envie. Après, il faut créer une histoire, il faut associer en fait. Donc, une top molle, donc je peux imaginer une top qui est complètement molle, comme ça, où tu joues à la pote à modeler. Pour la Bulgarie, donc on peut avoir une bulle, un pote. Enfin, dans le sud-est, souvent, les anciens disaient hey, Gary, comme ça, ils appelaient un copain. Donc j'imagine un ancien là, qui appelle un copain, enfin, une bulle, Gary. Et dedans, on peut imaginer soit il y a quelqu'un qui représente la sagesse pour vous, parce que Sophia, vous pensez à la sagesse, soit Sophia, vous pensez juste à un seau. Vous mettez dans cette bulle, il y a un seau. Et poum, elle se crève et le seau il tombe là sur la tête du bonhomme. Et voyez, le fait d'imaginer comme ça une scène complètement farfelue et loufoque, en plus le fait d'associer ces cinq sens derrière, ça permet de l'encoder en fait, de le faire entrer dans le long terme. Après, derrière, avec un peu de répétition, ça change vraiment, hein. J'ai des enseignants en anglais qui l'ont testé dans leur classe et ils me disaient, moi, j'ai plus le chiffre exact, mais ils me disaient, j'ai plus. À la fin de l'heure, il connaissait entre 20 et 30 mots d'anglais. Alors moi, ça ne m'a pas paru fou, mais il me disait, mais en général, il faut savoir que c'est 5 mots qu'il faut s'attendre à qu'il mémorise maximum. Et en fait, on peut aller très loin. J'ai un élève en seconde, il s'est amusé pendant un mois à apprendre, enfin 3 semaines, 500 nouveaux mots en anglais. Ça lui a pris 30 minutes par jour, avec ses techniques d'association, plus derrière des flashcards, enfin, d'entraînement. Et derrière, il avait il me dit, c'était plus facile l'anglais, en fait, quand tu connais du vocabulaire.
Et c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on finit par s'appuyer sur ce qu'on sait déjà pour mémoriser d'autres choses.
Et c'est ça. Et en fait, c'est là où souvent ça peut être, on va dire, il peut y avoir j'ai des détracteurs des fois dans des personnes qui sont quand même très expertes dans leur domaine. Elle me dit, mais non, tu vas pas associer comme ça. Ça, c'est logique parce que ça vient de telle étymologie, ça vient de tel endroit. Et donc, on crée un lien. Et en fait, je suis d'accord avec ces personnes. Mais le truc, c'est qu'elles ont oublié par lequel chemin elles sont passées. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand on doit apprendre quelque chose, on a deux extrêmes. Soit on est complètement expert du sujet, du coup, c'est facile de créer des liens logiques. Et auquel cas, on ne crée plus des liens loufoques dans ce sujet parce qu'on a accès à plein de références. Soit on est complètement débutant dans un domaine et là, on n'a pas accès à tous ces liens logiques. Et la seule option qui nous reste, c'est cette voie loufoque. Et plus on va avancer, et moins on va avoir besoin de ce côté loufoque, et plus les liens rationnels vont arriver en fait.
Et alors, quand tu fais des formations, c'est quoi le programme?
Alors, le programme, c'est une bonne question parce qu'en plus, quand on fait ça avec Formulis, je crois qu'on est les seuls à faire ce programme, surtout dans l'ingénierie pédagogique. Moi, avant, il y a eu un avant et après confinement. Avant confinement, je faisais des journées de formation, un, deux, enfin, ça pouvait durer plusieurs jours. Et les gens, ils sortaient de là, ils sont hyper contents. En plus, quand tu mets un peu des rythmes d'animation, bah, ouais, ils ont vu une expérience, c'est sympa. Mais derrière, au bout de 15 jours, tout le monde repart sur son quotidien, fait plus rien. Faire simple, hein, 10% de conversion. D'application, Alors que là, du coup, grâce au confinement, on a imaginé différemment un programme d'entraînement sur un mois. Parce que 6 heures d'affilée en visio, ça n'a pas de sens. Enfin, on a tous testé, c'est horrible.
C'est pas une bonne idée.
Et du coup, là, les séquences, elles sont conçues pour se dire sur un mois, on va essayer de mettre toutes les ressources possibles pour que les stagiaires, du coup, les enseignants, puissent être on va dire, à la fois en mode une émulation et en même temps en sécurité pour expérimenter. Donc, il y a un enchaînement de visio en synchrone, donc avec moi ou un des formateurs de l'équipe, où pendant 2 heures, on découvre notamment une nouvelle méthode, c'est un tout petit peu de théorie, on expérimente ensemble et je leur fixe un challenge sur la fois d'après. Donc après, ils ont une semaine où là, donc, en général, on a un groupe WhatsApp où on peut échanger entre nous et ils partagent leur mise en pratique. Et ils ont à pratiquer pour eux, enfin du coup vers eux-mêmes, pour maîtriser un peu mieux les méthodes, et surtout en posture d'émetteur, moi j'ai tendance à dire. Donc, ça peut être leur enfant, ça peut être un petit groupe d'élèves, ou s'ils se sentent suffisamment, on va dire, solides, devant 30 élèves. Mmh. Parce que, voilà, vous voyez, au rythme qui nous semble acceptable. Et la semaine d'après, quand ils reviennent, en fait, la première fois, je ne savais pas si ça allait marcher, et j'ai été impressionné. J'avais plus de la moitié des enseignants qui étaient venus. Alors déjà, en général, j'ai entre 80 et 100% qui pratiquent avec eux-mêmes, mais j'avais plus de la moitié qui l'avaient testé avec leurs élèves. Et du coup, ils avaient des vraies questions. Ils me disent, là, ça a trop bien marché, c'était incroyable. Tiens, là, j'ai eu cette question, je n'ai pas su répondre. Comment t'aurais répondu? Qu'est-ce que t'aurais dit? Donc, on rentre vraiment, je trouve, dans une formation transformante. Et moi, ça résonne beaucoup avec une des valeurs chez moi qui est importante, c'est avoir de l'impact. Et j'aime bien, du coup, enfin, j'adore, du coup, vivre ces formations qui ont vraiment un impact avec les enseignants, en tout cas au moins sur un mois. Et les sujets traités, peut-être que tu veux que je te développe le sujet traité dedans, les méthodes.
Oui, c'est ça.
Et ce qu'on voit à l'intérieur, c'est les problèmes que je t'ai cités au début. Hein. C'est comment on apprend une liste, comment on apprend tout ce qui est schéma. Donc ça peut être une carte de géographie, une planche d'anatomie, ça peut être des schémas de synthèse, enfin, un truc qui est représenté dans un plan. Alors là, c'est un truc un peu différent, c'est comment on résume un cours pour derrière le retenir. Il y a la notion aussi un petit peu de définition. Il y a quatrième point, c'est comment on apprend tout ce qui est vocabulaire et perte d'informations. Et on va dire que le dernier point, retenir des chiffres, des informations chiffrées, c'est quelque chose d'un peu difficile à avancer. Donc des fois, on le traite en dernier point, mais je leur donne surtout des clés pour approfondir parce que c'est quand même assez difficile au début d'aller sur ce genre de méthode.
Et alors d'ailleurs, en complément, j'allais dire, de cette formation, tu as un livre, hein, les champions de la mémoire, et c'est peut-être une bonne idée d'investir dedans pour voir un petit peu toutes ces techniques et puis de pratiquer. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce livre?
Carrément. En fait, souvent, c'est le quatrième en fait que j'écris. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu as écrit plusieurs comme ça? C'est en fait, il y a une logique grâce à mes stagiaires. En fait, à chaque fois, je mets entre 1 et 3 ans à écrire un livre parce qu'en fait, il devient normal d'écrire un livre une fois que j'ai eu suffisamment de retours avec les élèves. Le premier, c'est vraiment un résumé des méthodes avec un peu d'exercice. Le deux, c'est beaucoup plus d'entraînement sur les facultés élémentaires que tu peux parler, l'attention, l'association. Voilà. Donc, plus d'entraînement là-dessus. Le trois, c'est une BD, donc c'est un truc un peu décalé, mais vraiment sur ces techniques d'apprentissage, de mémorisation. Et le 4, c'est j'ai des personnes qui me disent, mais quand on fait des exemples avec toi, j'y arrive. Mais quand je suis tout seul, j'y arrive plus. Donc là, je me suis dit, comment faire pour les faire monter plus vite en compétences? Et en fait, je me suis rendu compte que plus on donnait d'exemples, pré-mâchés d'une certaine manière, et plus on arrivait à capter la logique. Donc là, c'est un peu comme un cahier d'exercice ultra illustré, que j'ai eu la chance de l'avoir aussi écrit avec une illustratrice. Donc Lorraine qui a fait un travail assez incroyable. Donc à la fois il y a plein d'exemples écrits, mais plein d'exemples illustrés. Quand on fait mémoriser par exemple les dieux grecs et romains, donc dieux grecs Jupiter, Zeus et Jupiter romain, c'est le nom. Zeus, on a illustré des œufs, Zeus de œufs, et Jupiter une jupe. Donc quand on imagine notre œuf avec cette jupe là qui tourne, c'est complètement farfelu, mais ça permet de l'ancrer. Et il y a plein de dessins comme ça dans le livre. Et ça aide du coup à s'entraîner tout seul, mais on l'a fait un peu pour des enfants, enfin des familles avec des enfants de 8 à 14 ans, en s'entraînant en famille et que ça devienne un jeu, quoi.
Et on n'imagine pas le pouvoir J'avais le mot d'imaginer quelque chose. Moi, je prends régulièrement du temps avec tous mes élèves. Et donc, je leur raconte une histoire, je ne sais même plus trop laquelle, mais où je parlais d'un vase et je leur montrais le vase dans ma main. Le vase, j'avais rien dans mes mains. Hein. Mais ils me disaient, ah oui, c'est vrai, on le voit.
Mais
Donc,
oui.
c'est impressionnant ce pouvoir qu'on peut et qu'il faut utiliser. Non, non,
Mais oui, et en fait, maintenant, on le sait, en fait, la visualisation, du coup, c'est un
non.
peu connexe à tout ça. C'est en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a plus on utilise de sens, en fait, chaque sens est connecté à une aire cérébrale. Donc, plus on va solliciter de sens différents, visuel, auditif, kinesthésique, enfin, tout ça, plus on va activer l'aire cérébrale, et donc derrière, meilleure sera la rétention, en fait. Après, on aura besoin de moins de répétitions. Et c'est une des clés, en fait, en tant que pédagogue, enseignant ou de formateur, c'est comment je fais en sorte que le cerveau de mon élève, de mon stagiaire, soit le plus activé possible. Et ça, c'est une des clés, quoi, la multisensorialité.
Très bien. Alors pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver dans le monde de l'Internet?
Ah, dans le monde de l'Internet, alors, moi j'ai un site, Sébastien Martinez, avec un trait d'union entre les deux.com. Et j'ai des ressources gratuites d'entraînement, voilà, des petits jeux là pour mémoriser, s'ils veulent aller voir. Et après, je suis sur LinkedIn, Sébastien Martinez, Insta, la méthode Martinez. Moi, c'est toujours autour de mon prénom, non? Hein, je fais
D'accord,
ça un
mais je
peu
mettrai
comme
les
ça.
liens dans ce cas-là. Ça marche. Eh bien, un grand merci hein, pour cet
Merci
entretien.
à toi.
J'espère que ça va intéresser les auditeurs qui ont deviné ce que j'ai fait. Alors, quand ils vont on enregistre avant les vacances là, mais eux, ils vont l'entendre pendant après les vacances. Donc voilà, je pense qu'ils auront deviné ce que j'avais fait pendant mes vacances. Un grand merci à toi.
Merci François.
Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers, abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.